je vous ai aimé.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répondit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. C'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu.
Après avoir écouté les lectures de ce dimanche, je dois vous faire une confession, chers frères et sœurs. Je crois que je n'avais pas pris suffisamment au sérieux le pardon avant de devenir prêtre. Ça ne veut pas dire que je ne pardonnais pas, j'espère que je pardonnais avant d'être prêtre, mais je crois que je n'avais pas perçu combien le pardon est révoltant et combien il est vraiment une exigence surpuissante, mais quand même très difficile de notre foi. Lorsqu'on est un petit chrétien, on apprend qu'il faut pardonner, mais souvent on continue quand même à se venger de manière détournée, ne serait-ce que par la rancune que nous entretenons dans notre cœur. Et si l'on a vécu une blessure grave, une trahison ou une perversion profonde, on sait que le pardon semble impossible et la punition du coupable apparaît comme la seule option vraiment désirable. Je voudrais commencer cette homélie par une petite histoire de conversion avec le pardon, qui est l'histoire du pasteur Nicky Cruz. Vous avez peut-être lu son témoignage d'origine portoricaine, qui avait grandi à Porto Rico et après dans les quartiers pauvres de New York dans les années 50-60. Il avait été abusé étant enfant, il avait été victime de la sorcellerie et du satanisme de ses parents, il avait vécu assez jeune dans son adolescence la drogue, la violence, les meurtres, les relations tarifées. Et un jour, il a rencontré un pasteur qui avait reçu cette mission de la part de l'Esprit-Saint d'aller évangéliser les gangs de New York. Et assez étonnamment, il s'est retrouvé dans un amphithéâtre qui avait été loué par ce pasteur pour tout simplement qu'il prêche la bonne nouvelle à ces gangs, à ces gens qui n'avaient qu'une habitude, c'était la violence. Et évidemment, ces gangs, c'était déjà un miracle qu'ils soient présents dans cet amphithéâtre. Ils n'avaient accueilli les paroles du pasteur qu'avec des moqueries. Mais au moment où le pasteur a rappelé le commandement du pardon et le commandement du Seigneur de s'aimer les uns les autres, plusieurs membres de ces gangs se sont révoltés et ont exprimé que c'était impossible d'aimer son prochain, celui qui nous a fait du mal, que c'était impossible de pardonner. Et à l'appui, ils montraient les blessures qu'ils avaient eux-mêmes reçues dans des bagarres, les coups de rasoir, les balles qui restaient avec des traces dans leur ventre. Le pardon était impossible. Mais c'est à partir de ce moment où il y a eu cette impossibilité du pardon qui a été présentée à leurs yeux, que plusieurs se sont ouverts à la parole du Seigneur. Et ce pasteur a invoqué l'Esprit-Saint sur eux en leur expliquant que bien sûr le pardon était impossible aux forces simplement humaines. Et plusieurs, en recevant l'Esprit-Saint à ce moment-là, dont le pasteur Nicky Cruz, qui n'était à l'époque qu'un meurtrier, se sont convertis et ont compris qu'ils pouvaient à leur tour pardonner. Ce qui est assez amusant, c'est que du coup, tous ces membres de gang ont passé la nuit en prière, ils sont repartis avec leur Bible, et le lendemain matin, ils sont allés voir tout simplement le poste de police, ils ont rendu toutes leurs armes, tous leurs couteaux, et dans un geste très émouvant, les policiers devaient être vraiment surpris, ils ont demandé à chaque policier de venir faire un autographe à la première page de leur Bible. Évidemment, les policiers étaient estomaqués de cette démarche de pardon. Et à partir de ce moment-là, ces personnes qui étaient tellement blessées ont pu petit à petit pardonner. Grâce à Dieu, il existe des centaines, des milliers de témoignages comme celui-ci qui nous montrent que le pardon est possible, mais il nous montre aussi que notre propre pardon est souvent minable. Je ne dis pas ce mot minable pour nous enfoncer, mais au contraire pour nous dire que le pardon est tellement plus grand que nos petits oublis, parce que souvent ce que nous prenons pour du pardon n'est que l'oubli, parce que les événements passent et que notre vie continue. Et le Seigneur veut vraiment nous stimuler pour que nous puissions entrer plus profondément dans le pardon qui est tellement plus que des petits oublis. Et surtout, ce pardon ne s'adresse pas qu'aux blessures graves, mais il s'adresse aussi à toutes nos petites querelles, à toutes nos petites rancunes de la vie quotidienne, parce qu'il faut bien reconnaître que ce sont ces petites amertumes qui nous rongent progressivement et qui nous gâchent l'existence. Et le Seigneur veut vraiment, là aussi, mettre son pardon. Je voudrais que pour cette nouvelle année paroissiale à Saint-Nicolas-des-Champs, nous demandions la grâce à Jésus de redécouvrir le pardon et d'abord d'éliminer nos fausses conceptions du pardon et ensuite d'apprendre à inverser notre tendance chrétienne spontanée qui est plutôt de régler nos conflits et après éventuellement de pardonner, de l'inverser pour que nous apprenions à pardonner, au moins à décider de pardonner dans notre cœur pour ensuite régler nos conflits de manière juste et équitable. D'abord sur cette question des fausses conceptions du pardon. La première lecture, qui est un passage de l'un des livres de sagesse, cette sagesse d'Israël qui est le fruit de siècles de méditation, de prière, de prophétie, et où l'auteur, sous l'inspiration de Dieu, est arrivé à une détermination extrême que nous devons retenir. C'était la première phrase de cette liturgie de la parole aujourd'hui. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. On voit que le Seigneur veut éliminer dans notre cœur la rancune et il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le Seigneur nous donne le commandement le plus clair de pardonner, comme il l'a transmis dans l'Évangile à Pierre, en lui disant de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, vous le savez, selon la symbolique, ça veut dire de manière infinie. Mais pour muscler notre pardon, il faut justement déraciner ces fausses conceptions du pardon. On va essayer d'en faire une petite liste. La fausse conception la plus répandue, c'est souvent qu'on se dit que nous avons besoin d'avoir des sentiments de pardon pour pardonner. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande simplement de prendre la décision dans notre cœur. Mais nous ne devons pas attendre de sentir le pardon pour l'accorder. Sinon, nous ne pardonnons jamais. Et nous savons que cette deuxième fausse conception qui en découle, c'est que nous devrions, pour avoir un vrai pardon, le faire à la force du poignet, par nos propres forces. Là aussi, nous savons que le pardon nous dépasse, et c'est pour cela que nous devons le demander au Seigneur. C'est ce que nous montre justement l'Évangile que nous venons d'entendre. Le débiteur impitoyable aurait dû avoir la force de pardonner à son tour, parce que sa dette, qui était colossale, avait été effacée. Et le fait que cette dette colossale avait été effacée devait lui donner la force d'accorder à son tour le pardon et que cette dette qui était ridicule à côté de la dette qui avait été effacée pour lui, cette dette ridicule, il devait à son tour l'effacer. Une autre fausse conception, c'est de considérer que le pardon, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Le Seigneur ne nous demande pas ça, sinon le pardon deviendrait un mensonge. Le Seigneur ne nous demande pas de redonner notre confiance ou de redonner notre amitié à quelqu'un qui nous aurait trahi. Pardonner, ça n'est pas ça. Nous devons retenir de cette histoire de la dette que lorsque quelqu'un nous a offensés, il a réellement une dette à notre égard et le Seigneur reconnaît que cette personne a véritablement une dette à notre égard. Ça n'est pas pardonner et oublier, nous sommes chrétiens. Non, le Seigneur reconnaît qu'il y a une dette, mais lorsqu'il nous demande de pardonner, il nous demande de dire à l'autre ou le dire dans notre cœur, « Je te retire ta dette, tu as vraiment une dette à mon égard, mais je ne te la ferai pas payer par ma vengeance. » Et je sais que le Seigneur convertira ton cœur et il purifiera ton cœur si tu refuses de racheter ton pardon sur cette terre. Le problème que nous rencontrons, et je termine avec ce second point, chers frères et sœurs, c'est que dans bien des situations, nous ne donnons pas notre pardon, ou bien nous le faisons trop tard, parce que nous avons peur d'être faibles, et nous voulons absolument régler nos conflits. Ou alors, si nous ne le faisons pas de manière directe, nous passons quelques jours à bouder dans notre coin, ou à entretenir une rancune. Pardonner se passe d'abord dans notre cœur. Et dans la plupart des cas, nous n'avons pas d'abord à aller voir la personne qui nous a offensés, soit parce que l'offense n'est pas consciente ou qu'elle est trop petite pour qu'elle soit abordée, ça jetterait un trouble encore plus grand que le mal lui-même, soit parce que l'autre n'est pas en mesure de recevoir notre pardon et de reconnaître sa faute. Malheureusement, nous savons, surtout pour les blessures graves, que les gens ne reconnaissent pas leur faute. Mais si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est d'abord pour nous-mêmes, parce qu'il veut nous donner cette libération du cœur. Il veut que nous sortions vainqueurs de ce combat qui se réalise dans notre cœur, parce qu'il y a une sorte de principe de double peine pour celui qui a été victime du mal. Non seulement il a été victime du mal, mais en plus son cœur est rongé par la rancune, par la tristesse, par l'esprit de vengeance. Et tout cela est comme une double condamnation. Alors le Seigneur, s'il nous demande de pardonner, c'est d'abord pour nous-mêmes, parce qu'il veut que nous ayons le cœur libre. Et pour cela, pas besoin d'avoir de grandes souffrances ou de grandes blessures. On voit bien combien notre journée peut être gâchée parce que quelqu'un a eu une parole blessante ou quelqu'un n'a pas eu le geste d'attention que nous attendions, ou alors tout simplement les événements ou tout ce que nous entendons viennent nous donner la tristesse, et nous ne sommes pas capables de pardonner à ces gens, nous ne sommes pas capables de pardonner à l'intérieur de ces événements. Alors le Seigneur, là aussi, il veut nous libérer et il veut que, tout simplement, nous lui présentions cette décision. Seigneur, je veux pardonner dans mon cœur. Et ça ne se passe pas forcément à l'extérieur, mais déjà le Seigneur nous permet de ne plus développer cette rancune dans notre cœur. Bien souvent, nous faisons tout dans le mauvais ordre, c'est-à-dire que nous nous disons « rétablissons la justice », donc éventuellement nous allons voir la personne, nous lui disons ses quatre vérités, ou alors nous lui disons ce qui n'allait pas avec gentillesse. Mais il y a quand même un problème, parce que nous n'avons pas d'abord décidé de pardonner, et donc notre parole, soit elle passe à côté, soit elle entretient une rancune encore plus grande, soit elle ne rétablit pas cette harmonie des cœurs à laquelle nous aspirons. C'est pour ça que nous devons vraiment nous attacher d'abord à pardonner, que notre cœur change en suppliant le Seigneur, et ensuite on va voir son frère et régler nos désaccords. Notre sagesse commune nous dit qu'il ne faut pas s'expliquer sous le coup de la colère. C'est quelque chose de vrai, mais je crois que nous devons aller bien plus loin que ça et dire que non seulement il ne faut pas s'expliquer sous le coup de la colère, mais il ne faut pas non plus s'expliquer sans avoir pris la décision de pardonner. Que le Seigneur nous fasse vraiment redécouvrir, chers frères et sœurs, dans ce dimanche et dans ce mois de septembre, dans toute cette année, la force du pardon qui ne concerne pas seulement les blessures graves, mais aussi les petites amertumes du quotidien. Que nous ayons la force de toujours être libérés, de libérer les autres de la dette qu'ils ont à notre égard, et que nous puissions apprendre à pardonner sans cesse. Amen.